Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce footpod consacré donc à la première journée de la Coupe du Monde 2018, les groupes E à H. Avec moi, il y a Yann.
Et le groupe H, pas le H, hein, qu'on soit bien d'accord. Bonjour Nico.
Du vin, du H et du vin. C'est le 20 à
juin. Tu me rajeunis pas là.
Ouais, ça devait être au moins sur le best-of des 10 ans de Groland, ça.
Déjà, ouais.
Bon, bref. Donc, allez, entamons ce fantastique groupe avec un match passionnant, arbitré par l'arbitre sénégalais Malang Diédiou. C'était le fantastique Costa Rica-Serbie qui s'est achevé sur une victoire serbe grâce au but de Kolarov à la 56e minute.
Et quel but!
Je crois que j'ai bien fait de pas le regarder, ce match, hein.
Ouais, t'as rien loupé. Moi, je l'ai vu et t'as pas loupé grand chose, mais par contre, le but est magnifique.
Voilà. Oui, j'ai vu le but, mais. Non, mais j'ai préféré regarder le match du soir, donc, mais bon, voilà, Costa Rica-Serbie, hein. De toute façon, ni l'une ni l'autre ne gagnera la Coupe du Monde, donc on s'en fout, hein. C'est ça, en fait.
Ouais, mais moi j'aime bien regarder les matchs comme ça. Enfin, tu vois, je suis en train de voir tous les matchs de la Coupe du Monde et du coup, je pense que je les verrai. Comme c'est la dernière Coupe du Monde que je fais, j'ai dit allez, celui-là je suis un ouf, je fais tous les matchs.
Ah non, mais là les Serbes, non, je crois qu'ils m'ont assez dégoûté dans les 25 qualifications où on a dû les jouer, les poules de qualif. Donc que ça soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde.
Ah bah ça a joué derrière. Hein.
Bah ça joue moche quoi. C'est. Ça joue moche. Voilà, en plus, voilà, ils ont même pas de joueurs passés par le FC Metz, donc niveau intérêt, proche du néant, quoi.
Voilà, ça jouait beaucoup derrière, mais le but, le coup franc, est magnifique.
Moins que celui de Cristiano, mais bon, voilà, un autre but magnifique, donc c'était à la Rostov Arena, qui se situe à Rostov sur le Don, dans un match arbitré par le gentil mexicain Cesare Arturo Ramos. Ouais, je sais pas comment on le fait avec l'accent mexicain, mais bon, bref. Le Brasil, qui a été tenu en
Brasil
par les Suisses un partout. Ils avaient ouvert le score sur une frappe superbe de Coutinho. Et Zuber a mis un Zuber but.
Oui, et ils ont bien tenu dans le temps additionnel, mais on l'a déjà faite, celle-là, je crois.
Voilà. Mais c'est surtout, c'était les grands débuts et la grande fin de la coupe spaghetti de Neymar.
Oui, il paraît qu'il l'a rasé depuis.
Non, même Cantona, il a réussi à sortir Cantona de sa caverne pour qu'il se foute de sa gueule.
Bah, c'est ça qui a fait que Neymar l'a rasé derrière. Mais ça prouve bien que Neymar pense plus à sa coupe de cheveux qu'au Brésil, enfin qu'à l'équipe du Brésil.
Bah là, il est surtout en train de penser à son transfert au Real de Madrid. Ça y est, c'est revenu sur le devant de la scène. Mais c'est parce que papa, il veut des sous. Papa, il a besoin de sous. Je sais pas ce qu'il a besoin de sous, mais il a besoin de sous, en fait, papa. Parce que papa Neymar, donc Neymar senior, il fait le pressing pour le transférer au Real. Je sais pas pourquoi. Mais quand tu vois qu'il y en a qui se sont offusqués que Aulas était venu assister à un entraînement de l'équipe de France, hein, alors qu'il est quand même membre de la fédération et tout ça, hein. Mais papa Neymar, il dort dans l'hôtel des joueurs brésiliens. Hein. Il lâche pas la poule aux œufs d'or, hein, on sait jamais.
Ouais, c'est ça qui me dérange. Autant Aulas, tu vois, enfin, on est les premiers et on l'a fait dans les footpods cette saison à critiquer Jean-Michel Aulas.
Mais alors qu'il a le plus beau stade d'Europe d'après le président de la Juve, quoi, merde.
Oui, c'est vrai. Mais et j'étais le premier quand je suis descendu à Lyon pour les demi-finales du Top 14, chanter Jean-Michel Aulas, on va te casser chez toi. Enfin bon, bref. Ma vie de supporter de rugby ne regarde pas le footpod de la même façon que l'intimité de Grégoire et Bichent ne regarde pas les Français.
Ah, bah attends, ils nous la font partager, hein.
Mais voilà, enfin, si tu veux, Aulas, qui est président, enfin, qui est membre important de la Fédération Française de Foot, qui l'assiste de loin, ou qui a un entraînement des Bleus et qu'après il sert 3-4 paluches, ça me dérange pas.
Oui, et puis bon, en plus, il a des intérêts, genre le transfert de Fekir qui se fait pas, donc on peut comprendre que il soit là, mais
enfin non, mais enfin tu vois, à côté de ça, le président de l'Atlético qui est dans l'hôtel des Bleus, c'est un peu plus dérangeant, ça.
Mmh. Oui, mais même globalement, moi j'ai beaucoup de mal avec les parents qui lâchent pas, quoi. C'est pareil pour la mère Pogba, quoi. Elle est tout le temps collée à Paul, hein, parce que bizarrement, elle est jamais en train de suivre Florentin. Je sais pas pourquoi.
Et Mathias, on en parle même pas.
Qui? Bon, j'ai un troisième fils. Non, mais voilà, c'est pareil avec les parents Mbappé, quoi. Ils ont peur de quoi? C'est... Voilà, c'est... Mais on pourra en revenir au match. Bah, le Brésil se sont fait niquer comme les Espagnols contre le Portugal, hein. Penser mener 1-0, ça suffisait, hein, un petit but d'avance. Et puis, bah, les Suisses, ils ont été courageux. Et
moi, je tire un grand coup de chapeau à l'équipe suisse parce que, putain, ils ont pris une marée brésilienne en première mi-temps.
Ah, les 20 premières minutes, ouais. Ils ont tenu, hein, ça c'est... Mais après, ça s'est rééquilibré parce que les Brésiliens se sont arrêtés de jouer, tu sais pas trop.
Et non, alors à mon avis, ça s'est rééquilibré aussi beaucoup parce que les Suisses ont marqué tout de suite en début de deuxième mi-temps. Je pense que 10 minutes après, c'était fini, tu vois, c'est...
Ah, je sais pas, les Brésiliens, ils étaient vraiment en train de s'endormir après leur but. C'est vraiment, le but les a complètement arrêtés, hein, donc... Après, tu vois, je pense que c'est peut-être le défaut de certaines grandes équipes, c'est se dire, on prend l'avantage, on gère, parce que on envisage d'aller loin et on veut pas arriver carbonisé en quart ou en demi. Et sauf que bah il faut déjà passer les poules. Et pour l'instant, à l'orée de ce premier match, ce premier tour, pardon, je suis pas persuadé que
le Brésil passe les poules.
Ouais, enfin oui, c'est vrai que bon, quand même, la Serbie doit aller jouer la Suisse et le Brésil, ça a pas forcément été évident. Mais peut envisager un nul entre les Suisses et les Serbes, et ensuite derrière une victoire suisse au Costa Rica, il sera à 5 points les Suisses, les Serbes sera à 4 points, et jouerait donc le Brésil, qui serait donc, ouais, il devrait taper le Costa Rica à 4 points, ça peut être très serré, hein. Ça peut offrir
ça va très serré.
Ouais, il y a plus de petites équipes, bah tu m'étonnes, quasiment l'intégralité des joueurs jouent dans les grands championnats européens, donc oui, j'inclus la France. Bah, puis même, je veux dire, en termes... peut-être la Belgique n'est pas un grand championnat européen, mais c'est quand même un niveau suffisant pour habituer, par exemple, des joueurs costaricains ou autres destinations exotiques de ce style-là à être ben, justement habitués aux tactiques européennes, aux physiques, à l'athlétique. Donc,
En plus, c'est des clubs qui vont en huitième de Ligue des Champions ou parfois jusqu'en quart de Ligue Europa, donc...
Voilà. Non, il y a plus ce côté, voilà, il y a plus ce côté de Pedro, guide péruvien, qui fait footballeur à ses heures perdues, quoi, tu vois.
Et qui est sur son cheval. C'est le fameux Pedro sur son cheval.
Voilà. Il sort qu'une fois tous les 16 ans parce que le Pérou se qualifie qu'une Coupe du Monde sur 4, hein, tu vois. Il sort de sa montagne qu'une fois tous les 16 ans. Non, non, c'est fini, ça, hein. Et d'ailleurs, on a eu une belle preuve puisque, c'est dans le groupe F que ben, le Mexique a tapé l'Allemagne 1-0.
Oh putain, mais alors là, pareil, ils ont pris une marée allemande, les Mexicains, mais...
Oui, mais enfin, une marée allemande, mais toute pourrie, hein, la marée. Hein. C'est la marée allemande, mais c'était les vagues que tu retrouves à Nice, quoi.
Non, mais c'est ça.
C'était pas les vagues de Biarritz, hein. C'était, les Allemands, c'était catastrophique. Je veux dire, j'avais aperçu les matchs amicaux, enfin, de préparation. Ils étaient pas bons, mais je me dis, ouais, ils en ont rien à secouer. Mais non. Et voilà. C'est la différence, c'est que Joachim Löw, il a pas la chatte à Dédé, hein. Donc, voilà.
Si tu veux, moi, ce qui m'a amusé, c'est que, déjà, sur le but mexicain, il n'y en a pas un qui doit être là où il doit être. C'est-à-dire que le défenseur est en retard, sauf que le défenseur, normalement, c'est pas à lui de défendre.
Ah non, mais enfin, le jeu allemand, c'était catastrophique. Hein. Ils étaient lents, empruntés, prévisibles, et puis défensivement, c'est pas bon du tout, quoi. Enfin, à partir
j'ai bien aimé le remplaçant, je sais plus comment il s'appelait, là, le petit blond qui est rentré.
À partir du moment où ton meilleur défenseur, c'est Boateng, il faut s'inquiéter. Hein.
Oui, ça aussi. Mais je sais pas si tu vois de qui je parle, là, le vin allemand, là, le blond, il se brande, quelque chose comme ça.
Oui.
Celui-là, quand il est rentré, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, par contre, tu vois. Il a pris ses responsabilités, le mec, il a tenté une frappe, alors que il s'est fait engueuler par ses coéquipiers, mais au moins il a tenté de ramener son équipe vers l'avant. Il est redescendu défendre jusque dans sa moitié de terrain, alors qu'il est attaquant. pour sauver la Mannschaft, parce que putain, c'est pas passé loin du deuxième sur un contre. Enfin, tu vois, je l'ai bien aimé, ce joueur. Ouais.
Et donc, ça confirme la malédiction du PSG. Hein. Hein, salut, Julian Draxler. Pourquoi j'ai dit Julian, je sais pas.
C'est Julian, il me semble, en allemand.
Je l'ai fait à la mexicaine, Julian. Si. Mais en plus, ça doit pas se prononcer comme ça en mexicain. Je sais pas. Il faut que j'aille sur...
En mexicain, c'est en espagnol. Hein. Enfin bon, je dis ça.
Ouais, mais le mexicain, le mexicain, l'espagnol du Mexique et l'espagnol d'Espagne, c'est comme l'anglais d'Angleterre et l'anglais des États-Unis, quoi. Enfin. Ah là 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 là. Non, mais c'est ouais. Là, du coup, les Allemands sont plus du tout favoris de la Coupe du Monde, étrangement.
Ouais, mais on se posera la question en fin de podcast, parce que ça m'intéresse de savoir quel est le gros qui va tomber, quoi. Mais je pense qu'il y a un gros qui va tomber dans les poules.
C'est mal parti pour l'Allemagne, quoi, parce que il va falloir jouer la Suède, et ça va être le match de folie, hein, le 23 juin, mais nous y reviendrons dans deux podcasts. En attendant, la Suède, eh ben, elle a fait le boulot en s'imposant sur penalty 1-0.
Ouais, enfin bon, en même temps, merci le vidéo arbitrage. 17 secondes. 17 secondes. La Corée était en position de marquer au moment où l'arbitre a sifflé. Et ouais, non, on va revenir à l'action.
Ils étaient en plein contre les Coréens et ben, c'est dommage. Mais
Il y avait faute. Enfin, là-dessus, je remets pas ça en question, moi.
Oui, mais là, c'est tu vois les limites, quoi. Combien de fois l'arbitre, il ose pas siffler, il attend que dans l'oreillette, on lui dise « Oui, oui, il y a penalty. » C'est...
Enfin, 17 secondes, c'est énorme.
Bah, c'est contre, voilà. On a eu pile-poil le problème... Le problème que beaucoup de monde attendait, quoi, c'est si l'arbitre revient, s'il y a un contre et qu'il y a un but qui est marqué, qu'est-ce qu'il fait? Bah ben là, il n'y a pas eu de but marqué, mais le contre...
Il a le droit d'annuler le but pour revenir au péno.
Oui, oui, mais va prendre ses responsabilités. Bon, après, comme dirait Feu Thierry Roland, hein, il faut pas s'attendre à grand-chose, quand c'est un arbitre, ça va de rien. Hein.
Bon, tu vas le faire avec toutes les nationalités de l'arbitre, toi.
Ah non, mais oui, c'est bien Salvador, c'est bien salvadorien, c'est ça.
Oui, c'est indépendant pour moi, le Salvador.
Oui, non, mais on prononce bien...
Après, je suis pas prof de géo. Hein.
Voilà, enfin... Je veux dire, les habitants du Salvador, c'est bien les salvadoriens. C'est pas les salvadoris, les salvadorois, ou les salvador... je sais pas quoi, non.
Bref, t'as qu'à dire un arbitre du Salvador.
Oui. Bon, après, voilà, c'est pas non plus le premier pimpin venu, hein. Je veux dire, c'est quand même un arbitre régulier de la Ligue des Champions de la CONCACAF ou de la Superliga. Il a arbitré en Afrique du Sud et au Brésil pour les deux précédentes Coupes du Monde. Voilà, c'est quand même pas non plus,
Joel Rigolo.
Voilà. Mais bon, je voulais citer Thierry Roland parce que, voilà, quand même, c'était son truc, la Coupe du Monde, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et puis, c'est plus facile de dire Joël Aguilar que le nom du stade. Nijni Novgorod. Ouais, non, mais c'est surtout qu'il faut tous. Je vous conseille le site El Pronunciador qui te dit comment prononcer tous les noms de joueurs. Et là, j'ai découvert que personne ne prononçait jamais ne serait-ce qu'un seul nom coréen correctement. Tu savais que les fameux Lee, hein, comment tu veux qu'on différencie un coréen d'un autre, ils s'appellent tous Lee, hein, cher Thierry. Ben, ça se prononce pas Lee, en fait. Tu sais, le L-E-E se prononce I, en fait. Le L, tu le prononces pas, c'est très bizarre, enfin... Voilà, c'est donc c'est El Pronunciador qu'on retrouve donc sur le site de Marca. Voilà.
Est-ce que tu mettrais pas le lien dans la news de l'article?
Possible, parce que dans l'audio, je vais avoir du mal, quand même.
Oui, voilà. Alors, http://...
especiales.marca.com/mundial-rusia-2018/pronunciador.html. Voilà. Donc bref, maintenant on peut passer au groupe G. hein, le groupe du thé et des frites, puisque nous avons la Belgique qui a ouvert le bal dans ce groupe G avec une rencontre contre nos chers amis panaméens, donc de Panama. Voilà, et c'est un arbitre avec qui était de, enfin qui est toujours un Zambien. Et donc on a eu un superbe score de 0-0 à la mi-temps, avec des Belges qui nous faisaient une Thiago Silva, hein.
Qui flippaient leur mère.
Et deuxième mi-temps, voilà, 3-0. Je veux dire quand.
Non mais alors.
Quand t'as Lukaku qui met à doubler, hein, avec la Belgique, c'est que c'est. Quand même...
Je pense en fait que les Panaméens ont tellement défendu qu'ils étaient usés en fin de première mi-temps et que ensuite les Belges ont déroulé.
Je pense que ça doit être vraiment la dernière équipe où il y a vraiment pas de joueurs professionnels, quoi. J'entendais dans le commentaire, je sais plus quelle chaîne je regardais. Enfin, de sortir qu'un des joueurs vedettes du Panama était transféré donc d'un club du Panama en deuxième division mexicaine, et c'était genre le plus gros transfert de l'histoire du Panama ou un truc comme ça. Enfin, bon, j'ai rien contre le championnat mexicain. Hein. Je pense que leur Ligue 1 est pas très loin du niveau de la Ligue 1 française, mais quand même.
Tu dis ça parce qu'il y a eu Gignac là-bas.
Non, mais c'est vrai que globalement, ils ont un bon niveau hein, en termes de Ligue 1. Enfin, première division.
Oui.
Le problème, c'est que c'est la première division française qui devient très mauvaise.
Ouais, ouais. Ça, je suis d'accord.
Voilà, je pense que c'est vraiment la dernière équipe de la Coupe du Monde cette année. Enfin, la seule équipe de la Coupe du Monde qui est vraiment ce côté amateur.
D'ailleurs, mais non, parce que dans 8 ans, je te rappelle que tu auras 48 équipes, donc il y aura à nouveau des petites équipes amateurs. C'est pour le bien du football et pas du tout pour les matchs truqués en dernier match.
Et pour le fric, parce que c'est bien gentil, mais il faudrait quand même que les Chinois et leurs milliards de téléspectateurs potentiels, ils fassent de temps en temps la Coupe du Monde. Non mais voilà, j'ai dit sur 7 Coupes du Monde, pas sur les Coupes du Monde à venir. Et bon, bah la Belgique a fait le boulot, mais elle a quand même eu très peur, et voilà, bah... Les limites que j'avais vues et dont j'avais parlé dans le podcast se confirment, quoi. C'est ils ont un jeu qui est trop physique et je vois pas les Belges aller très très loin. Hazard il me semble atteindre ses limites depuis quelques années. Non, enfin pas, c'est que je les vois aller assez loin, mais tout le monde l'en fait presque devenu le nouveau favori. Non, je pense que s'ils arrivent déjà en quart de finale, ça
disons que
bien,
c'est un des favoris et outsiders qui a fait le job en premier match. Moi, j'attends de voir sur une grosse confrontation.
Après, ils auront quand même une équipe à leur portée en huitième, hein, déjà, donc ça les aidera. Mais il faut déjà qu'ils aillent en huitième, et c'est pas forcément évident, parce que ben l'Angleterre a eu beaucoup, beaucoup de mal de se débarrasser des Tunisiens, en s'imposant 2-1 à l'arraché, puisque Kane va marquer à la 91e.
Ouais.
Et voilà. Bon, après...
Et je pense beaucoup au gardien tunisien parce que très clairement, il a eu le mérite sur le premier corner, enfin sur le premier but, pas premier corner, mais sur le premier but anglais, de sortir cette balle. Bon, manque de bol, Kane était là pour la reprendre, mais déjà la tête, putain, il fallait la sortir. Mm-hmm. Et là-dessus, il se fait mal.
Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ce but, quoi, enfin, c'est... Voilà. Après, faut pas mettre un coup de coude à un ex-messin, sinon un autre ex-messin, il met le pénalty, voilà, un hein, Tunisien. C'est quand même très limité, hein, les Tunisiens, mais ça a vraiment le profil de cette équipe très emmerdante, et là, franchement, les Belges, ils vont devoir être plus performants que contre le Panama, donc le 23 juin, s'ils veulent battre les Tunisiens, parce que... ils ont des limites, mais ils sont très courageux et voilà, ils ont bien défendu, ils ont bien tenu.
Mais on le disait dans le podcast la semaine dernière, je crois, enfin juste avant la Coupe du Monde, vraiment, c'était vraiment l'épine dans le pied. On les voyait pas sortir des poules, mais on les voyait faire chier, quoi.
C'est pas impossible qu'ils réalisent une performance contre les Belges. S'ils arrivent à choper 3 points contre les Belges, tu retrouves avec l'Angleterre 6 points, Belgique, Tunisie 3 points. Et à dernier match où les Tunisiens ils jouent le Panama alors que les Belges ils iront jouer l'Angleterre. Voilà, il faut vraiment que les Tunisiens ils s'arrachent et ils donnent tout sur ce match. Oui, je considère que les Anglais arriveront quand même à sortir un but de plus que les Panaméens. Donc oui, c'est pour ça que j'ai dit 6 points pour l'Angleterre, parce que dans le deuxième match l'Angleterre joue le Panama. Donc
attention à ce qu'ils soient pas trop sûrs d'eux quand même, hein, les Anglais, parce qu'à mon avis la Tunisie c'est aussi qu'ils étaient un peu sûrs d'eux.
Ouais, non, mais là, voilà, je veux dire, les Tunisiens, c'est le match de leur, j'ai presque envie de dire de leur vie, quoi, pour eux, hein, contre les Belges. L'exploit, il est là. Il faut le faire là, l'exploit. Donc, imagine, les Tunisiens, ils battent les Belges, ils se retrouvent à 3 points, ils ont le Panama derrière, c'est quand même a priori jouable, ils peuvent être à 6 points, tu peux te retrouver avec 3 équipes à 6 points, hein.
Oui, oui, non, je suis d'accord.
Donc, ouais, c'est pas impossible pour les Tunisiens. Puis voilà, je te l'ai dit, moi je sens un parcours comme l'Algérie en 2014, tu vois, le truc au courage, à la bravoure, à la grinta. Bon, c'est pas des Sud-Américains, mais c'est pas grave, ils ont le droit aussi d'avoir la grinta, hein. Ouais, ouais, j'espère. Un peu comme les Sénégalais dans le groupe H.
Oh, cette transition.
Ah non, mais c'est vrai qu'il y a un côté très plaisant à voir jouer ce Sénégal. Ils se posent pas de questions, ils vont de l'avant, ils y vont, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment, bah après, quand tu vois leurs joueurs, ils ont vraiment le profil de joueurs qui se précipitent, qui jouent vers l'avant, quoi. Tu vois, des profils à la Sadio Mané, à la Ismaël Assar,
Non, mais je vois ce que tu veux dire.
Ça leur a permis de s'opposer 2-1 contre les Polonais qui ont, confirmé la pression de l'Euro 2016 et ils sont pas bons.
Pour moi, c'est une vraie surprise, hein, la Pologne qui n'y arrive pas à gagner.
Nawaf Choukrala, merci bien, hein, voilà, quand on prend un arbitre à du Bahreïn, hein, mon cher Jean-Mimi. Non, mais attends, quand il fait rentrer Niang sur la passe hors très pourrie de Krikoviak, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est tellement improbable, quoi, de le faire revenir en jeu à ce moment-là, le joueur, quoi. Ah, tu parles, hein, il s'est pas posé de questions. Non, j'arrive toujours pas à comprendre, quoi, tu vois. Comment il a pu faire ça, l'arbitre?
C'est un arbitre.
Non, mais il y a plein de décisions qui sont complètement à l'ouest, quoi. Il fait revenir les joueurs quand il faut pas, il fait des trucs comme ça. Mais, ouais. Après, derrière, ben voilà, la Pologne, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ils avaient qu'à sélectionner Ludovic Obraniak, l'ancien Messin. Voilà.
Il y a plus Obraniak? Non, c'est vrai qu'il a dû, prendre sa retraite internationale.
C'est pas impossible, non, il est plus, voilà. Et puis bon, en plus, ils ont perdu Glick juste avant la
Coupe du Monde, ils ont perdu Glick.
Ouais, et ça s'est senti, hein, dans la défense centrale, hein, qu'ils étaient au
coup. Bah, c'était le patron de la défense centrale, hein.
Ouais, mais enfin bon, il fallait le Glick de l'année dernière, hein, pas le Glick de cette saison, hein, parce qu'il était pas non plus top à Monaco, hein.
Bah, je sais pas, j'ai pas vu la Ligue 1.
Donc,
et me dis pas, bah, ils étaient en Ligue des Champions, je sais pas, comme c'était sur Canal, j'ai pas vu la Ligue des Champions, j'ai vu que le PSG.
Il aurait pu, hein, Obraniak, il a que 33 ans, hein. C'est juste qu'on doit pas avoir la Ligue 2, de diffuser en Pologne. Donc, le sélectionneur a pas dû pouvoir s'en rendre compte.
C'est ça.
Voilà. Non, mais bon, la dernière fois qu'il a été sélectionné, c'est donc pour la Coupe du Monde en 2014, et après, c'est vrai que quand tu vois son parcours...
Il a pas fait l'Euro. J'aurais dit qu'il avait fait l'Euro, moi.
Ben non. Mais bon, après, bon, il s'est perdu à Rizespor, puis en Israël, au Maccabi Haïfa, et enfin à Auxerre, donc... Voilà, c'est... Voilà, quand on commet des erreurs comme ça, mais comment tu peux composer un groupe sans un ancien Messin, quoi? Tu sais que c'est la catastrophe. Je le confirme, puisque le Japon a eu la bonne idée de titulariser Eiji Kawashima, l'ancien gardien, enfin, il est toujours actuellement gardien du FC Metz.
Le futur ancien gardien de Metz.
Voilà, jusqu'au 30 juin, hein, vu qu'on a la bonne idée de pas le reconduire. Et donc, le Japon s'est imposé 2-1 contre les Colombiens. Voilà. Colombiens qui ont la mauvaise idée de ne pas avoir de Messi dans leur groupe.
Et qui ont eu la mauvaise idée de s'en faire exclure un à la quatrième minute aussi, hein.
Quoi, tu crois vraiment que ça influence le match de jouer 85 minutes à 10? Mais après, je suis content.
Je crois, parce que vu l'égalisation qu'ils ont sorti.
Je suis content pour les Japonais, parce que voilà.
C'était une égalisation ou une réduction du score, j'ai un doute.
De quoi? Non, c'était une égalisation.
C'est ça, hein, j'ai eu un doute.
Oui. Non, mais d'ailleurs, ça m'aurait fait chier que le Japon ne prenne pas les 3 points, parce que ben, j'ai trouvé que leur jeu était plaisant. Surtout quand tu vois qu'ils ont perdu, leur sélectionneur a démissionné 2 semaines avant le début du mondial. J'aime bien, tout le monde nous fait une crise pour l'Espagne. Bah oui, mais les Japonais ont connu la même chose, hein.
Ah, puis les Japonais, y a un truc à savoir aussi, c'est qu'ils ont honteusement viré Vaïd. Je suis pas un grand défenseur de Vaïd, mais ils l'ont viré parce que bon, bah ça va, mais il faut quand même un Japonais à la tête de la sélection japonaise à la Coupe du Monde, quoi. Alors que qu'est-ce qui a qualifié le Japon et qu'est-ce qui s'est sorti les doigts du cul pour le qualifier, c'était quand même valide.
Ouais, mais tu vas par là, tu sais, en France, j'ose même pas imaginer le scandale que ça serait si on avait un sélectionneur étranger. On l'a eu une fois, ça a duré pas longtemps, mais tu verrais.
On a eu un sélectionneur étranger.
Ouais, ouais, dans les années 70, un truc comme ça, il a dû jouer 4 matchs ou une connerie comme ça.
Bah non, parce que moi j'ai toujours entendu dire qu'il y avait potentiellement le premier sélectionneur étranger.
Il me semble qu'on en a eu un peu, très courte période, mais dans les périodes sombres, parce que l'équipe de France n'existe pas entre 58 et 78 en fait. Les Bleus, ils ont jamais existé, tu vois. Mais bon, bref, pour en venir à Colombie-Japon, non, voilà, le jeu japonais, franchement très bien en place, bien tourné vers l'avant. Et surtout, ils ont perdu ce défaut qu'ils pouvaient avoir, et que, par exemple, encore une équipe comme la Chine, c'est que c'est du schéma tactique appliqué à la lettre. Le joueur, il doit courir, il est dans le couloir là, et à cette position-là, il doit courir de tel endroit, et il fait que ça. Ben là, non, ça permute, ça percute, ça vient apporter le surnombre. C'est un jeu plaisant. Après, il y a quand même des limites, mais c'est plaisant à voir, et puis... C'est bien fait pour les Colombiens, ils n'ont pas à nous taper 3-0 en deuxième mi-temps au mois de mars.
C'est ça.
Voilà. Non, je sais pas, j'arrive pas, la Colombie. J'ai pas envie qu'ils réussissent quelque chose. Pourtant, j'aime bien les joueurs, hein. J'aime bien Quintero, j'aime bien Falcao, tu vois, j'aime bien Ospina.
Moi, je pense qu'on en a trop fait autour d'eux.
Mais, voilà, je sais pas. Puis bon, j'aime bien ce côté... des petites équipes qui peuvent vraiment faire quelque chose, espérer vraiment un huitième de finale ou quelque chose comme ça, comme le Japon, voilà.
Ouais, bon, le Japon est pas si petit que ça, mais...
Bah, tous les joueurs quasiment jouent en Europe aussi, encore une fois. Hein.
Il est pas si grand que ça non plus, mais il est pas si petit que ça, quoi. C'est...
Ah, bah le gardien, ça fait 10 ans qu'il joue en Europe, t'as Sakai de l'OM...
Donc 5 au FC Metz, le pauvre.
Deux ans, mais c'est bien parce que il a été fidèle à Didion, il a conservé la moyenne de 2 buts encaissés par match. Non, mais c'est vrai, ils ont des bons joueurs, hein, comme donc je disais Sakai qui est à Marseille, voilà. Et puis bon, t'as des autres qui jouent en Allemagne et compagnie. Là, je connais pas tous les clubs. C'est vrai qu'ils sont pas non plus des titulaires indiscutables dans tous les clubs, mais ça reste des bons joueurs. Et puis quand tu vois la marge de progression
avec un peu d'expérience, oui,
quand tu vois la marge de progression qu'ils ont, enfin quand tu vois Sakai quand il arrive à Marseille, le Sakai d'aujourd'hui, il y a une sacrée différence, hein.
Il y a une sacrée différence.
Non, mais moi j'aime bien les Japonais, voilà. À chaque fois je prends plaisir à les suivre en Coupe du Monde, et ben ils me déçoivent pas non plus. Puis du coup voilà, je pense que c'est probablement le groupe le plus compliqué à pronostiquer, hein. Voilà.
Mais justement, Nico, on n'a pas vraiment mouillé le maillot là sur le.
Ouais, mais là, je pense que absolument personne n'avait prévu Japon et Sénégal premier au terme de la première journée.
C'est ça. Donc, mais du coup, sur le groupe E, on va prendre groupe par groupe là de ce qu'on vient de dire. Sur le groupe E, là, le Costa Rica, Serbie, Brésil, Suisse, tu vois qui sortir? Est-ce que tu vois quand même le Brésil et la Suisse sortir des poules?
C'est-à-dire aller en huitième.
Aller sortir des poules, pour moi, c'est se qualifier.
D'accord. Oui, quand même, à la fin. Je pense pas que les Serbes... c'est comme les Tunisiens, quoi. Ils ont le potentiel d'être l'équipe qui fait chuter une autre, mais pas qui passe.
Mais tu vois pas un vieux 1-0 de la Serbie contre la Suisse et c'est plié?
Non.
Parce que moi, je commence à le sentir, tu vois.
Je pense que les Suisses sont trop efficaces. C'est quand même une équipe qui... c'est comme le Danemark, quoi. C'est l'équipe ultra efficace avec une défense de fer, un parcours. Ils sont comme les Danois, je crois qu'ils ont dû perdre un match sur les 10 dernières rencontres ou une connerie comme ça. Ils encaissent quasiment pas de but. Ils ont quand même fini avec 27 points à égalité avec le Portugal dans leur poule.
À égalité? Non, pour moi le Portugal a fini devant,
Oui, mais à égalité de points, je veux dire, c'est en barrage, les deux équipes ont 9 victoires, une défaite. Ils se font taper à la différence de but.
Ouais, d'accord. Ah,
parce que les Portugais, ils ont tapé à Andorre, ils en ont tapé 8 en tout à Andorre, tandis que les Suisses, ils en ont tapé que 5, voilà, tu vois, dans le genre de truc comme ça. Ça se joue à différence, hein. Ils terminent tous les deux avec 27 points sur 30 possibles, et plus 28 pour le Portugal, plus 16 pour la Suisse.
Ouais, donc, ouais.
Sachant que,
c'est très défensif, mais un peu moins offensif, quoi.
Sachant que tu peux pas les départager, puisque le Portugal a gagné 2-0 à domicile face à eux, et la Suisse a gagné 2-0 à domicile face à...
Ouais, donc c'est du coup, c'est le général qui compte. Mais bon. Donc, et dans le groupe F, est-ce que tu vois quand même l'Allemagne se qualifier?
Non, mais tu vois, donc le parcours, c'est quand même une équipe qui a encaissé que 7 buts en 10 matchs, qui en a mis 23. Donc ouais,
oui,
c'est costaud. Après, c'est sûr, c'est pas glamour, hein. Je veux dire, quand t'as eu droit au match de barrage, c'est un but à zéro sur penalty, hein, sur l'ensemble des deux matchs. Donc, mais ils ont fait.
Mais en Coupe du Monde, pour être champion du monde, faut pas être glamour, faut gagner. Hein.
Mais ils ont fait mieux que les Belges, hein, puisqu'ils ont tapé le Panama 6-0 le 27 mars dernier.
C'est ça.
Ils ont fait un partout en préparation le 3 juin contre l'Espagne. Non, franchement, attention aux Suisses. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'il peut avoir un coup improbable des Serbes. Voilà, c'est ce.
Moi, je dirais plutôt attention aux Serbes. C'est-à-dire que normalement, c'est Brésil-Suisse, mais attention aux Serbes.
Voilà.
Parce que la Suisse pour les Serbes est prenable, le Brésil à mon avis le sera pas.
Voilà. Et dans le groupe F, je vois bien l'Allemagne tomber quoi en fait.
Ouais, t'es comme moi, tu vois bien un vieux nul contre la Suède et du coup ça peut suffire au Mexique et à la Suède pour passer quoi.
Voilà, il devrait finir à 4 points, ouais, un nul contre la Suède, il devrait gagner quand même contre la Corée du Sud. Mais à moins qu'il soit démobilisé, son troisième match à Corée du Sud et la Corée du Sud qui elle soit super motivée pour faire un résultat. Je vois l'Espagne 2014 pour moi c'est ça l'Allemagne. C'est une équipe.
Et en même temps, je voudrais pas dire, mais les deux derniers champions du monde sont tombés dans les poules. Hein.
C'est une équipe.
L'Italie en 2010 et l'Espagne en 2014. Donc.
Ouais. Et puis ça reste une équipe qui a perdu quelques joueurs clés qui ont pris leur retraite. Qui est composé de jeunes joueurs qui arrivent et de vieux qui sont un peu blasés, j'ai envie de dire, qui ont gagné quoi. Hein.
Mais parce que pourtant, tu vois, autant les grands avaient envoyé toutes leurs vraies équipes à la Coupe des Confédérations, autant l'Allemagne, ils avaient envoyé les remplaçants. Et il y a un an, ils m'avaient impressionné à la Coupe des Confédérations parce que les remplaçants avaient maîtrisé toutes les autres équipes.
Ah mais je pense que les autres équipes, elles étaient en mode putain, c'est quand qu'on a droit à des vacances quoi. Au bout d'un moment, il faut peut-être que les joueurs, c'est pas possible. Il faut peut-être de temps en temps leur laisser le mois de juin. Hein. C'est quand t'es joueur que tu dois jouer ta Coupe des Confédérations au milieu du mois de juin, que tu sais que tu rentreras, il faudra que tu partes en Chine, au Brésil ou je sais pas où en tournée promotionnelle avec ton club. Voilà, tu sais que c'est pas motivant. Alors que là, les jeunes allemands, ils avaient une place à gagner. À Timo Werner, ouais, il avait tout intérêt à briller à la Coupe des Confédérations parce qu'il y avait cette place d'avant-centre disponible, entre guillemets. Donc, je pense que ça a dû jouer. Et là, ouais, je pense que ils sont trop usés, en fait. Et puis, je pense que Joachim Löw a fait son temps, quoi. Enfin, le mec, il est là, donc, depuis 12 ans, seul à la tête de l'équipe. Je pense que c'est trop. Il arrive un moment, il faut renouveler un peu le truc.
Tu penses que Deschamps, après l'Euro 2020, doit partir, du coup?
Ah oui. Pour moi, Deschamps, en soi, je pense qu'il aurait dû arrêter après la Coupe du Monde. Mais bon, 2020, je pense que l'objectif, c'est de, Deschamps va rester sélectionneur jusqu'à ce que Benzema prenne sa retraite, quoi, en fait.
Joli.
Ah bah, si tu fais venir Zidane, c'est sûr qu'il va faire revenir Benzema, donc, là, je pense que Le Graët, il a bien fait comprendre qu'il en voulait plus, hein, Benzema. Donc, mais bon, on en reparlera dans un prochain pod, peut-être. En attendant, on va se tourner vers le groupe G. Bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein. Tu peux te retrouver avec un groupe, avec trois équipes à 6 points.
Ouais, c'est ça, mais je vois quand même la Belgique et l'Angleterre se qualifier. Je ne sais pas dans quel ordre.
Je pense que les Tunisiens. Tu vois,
je vois pas les Tunisiens battre les Belges. Faire un nul, oui.
Mais battre les Belges, c'est possible hein, sur un coup du sort, mais il faut vraiment qu'ils donnent tout sans la moindre retenue, les Tunisiens, sans aucun calcul, sans rien contre les Belges, parce qu'ils ont quand même des limites techniques et tactiques, quoi. Je veux dire,
on les a vus contre les Anglais.
Voilà, je suis content parce qu'il y a deux anciens Messins, mais ils ont été nuls à Metz et on était en Ligue 2. Ça passait à peu près.
La Ligue 2, c'est quand même le grand spectacle de l'improbable où un mec à 6 mètres est capable de mettre une frappe au-dessus.
Bah oui, enfin je veux dire, Sassi, il l'a fait à Metz, un but vide, il est dans les 6 mètres, il l'a mis à côté. Hein. C'est des joueurs qui sont quand même, je pense, il faut qu'ils y aillent, comme je l'ai dit, au courage à la Grinta, mais ça me ferait les pieds que les Belges ils s'en prennent une, quoi. Je sais pas, je l'aime pas cette équipe belge. Tu vois, c'est un peu comme les Colombiens, individuellement les joueurs, je les aime bien, je les trouve bons et tout, mais collectivement, Bon, c'est peut-être parce que j'ai les chaînes belges, ils en font mais des tonnes et des tonnes et des tonnes autour de leur sélection, quoi, mais enfin, comme si Grégoire Mogoton, il en faisait des tonnes autour de l'équipe de France, quoi. TF1, je trouve, traite l'équipe de France de façon parfaitement non.
Ah bah, y a qu'à voir, à chaque fois dans le mag après les matchs, le dernier c'était après Tunisie-Angleterre, je crois que dans le groupe H il y en avait pas, et que pendant 3 jours il y a pas de match sur TF1.
Mais on parle que de l'équipe de France.
Si tu veux, ouais, c'est ça, c'est sur le dernier mag après Tunisie-Angleterre, il y a eu 50 minutes de mag, 30 minutes sur l'équipe de France, quoi.
Ah, mais c'est pareil dans l'équipe du soir, sur l'équipe 21. Et le nombre de fois où tu vois...
Non, mais l'équipe 21, ça se comprend. La chaîne L'Équipe, ça se comprend parce que...
Ouais, enfin, ça se comprend.
Ils ont pas les droits.
Non, mais ça se comprend que l'analyse du match qui vient de se terminer, c'est 5 minutes. Et la pseudo-fausse blessure de Griezmann, c'est un quart d'heure, quoi. Non, c'est... Non. Il arrive à un moment, voilà, il faut quand même parler. Je tiens, ils ont quasiment pas parlé dans l'émission du soir, hein, donc à 22h30. Du match de Suède-Corée du Sud. Enfin, je veux dire, ils ont juste montré le but en rappelant, il y a eu le match là.
Enfin, TF1 fait pareil.
Non, mais je trouve ça inadmissible, je veux dire.
Alors que TF1, théoriquement, a les droits de la compétition.
C'est surtout qu'en plus, le coup, oui, on suit l'entraînement des Bleus. Oh là là, Griezmann s'entraîne à part, il fait il fait des étirements et des machins. Puis là, t'avais Domenech qui fait, ouais, il a rien, en fait, hein, c'est juste qu'on en fait Caston autour de lui, il fait, je l'ai fait exprès, et je l'ai fait moi aussi en tant que sélectionneur, hein, de faire style, le joueur, il a peut-être une petite blessure ou machin. C'est du jeu psychologique avec le futur adversaire, en fait. Mais ils en faisaient quand même Caston. Et puis là, comme par hasard, Raymond Domenech ne disait plus rien, hein, je pense qu'en off, pendant le reportage ou le duplex, on a dû dire, ta gueule, Raymond, il faut qu'on fasse 20 minutes là-dessus. Nous tue pas notre sujet. Et tu vois, c'est ça le pire, c'est que les médias, ils en font tellement que t'as presque envie que l'équipe de France, elle se fasse jeter au premier tour, quoi. Parce que tout d'un coup, on n'en parlera plus du tout de la Coupe du Monde.
Non, mais moi, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est que cette Coupe du Monde s'achève vite. Et putain, ça fait que 5 jours qu'il y a des matchs.
6.
Oui, d'accord. Mais enfin, tu vois l'idée.
Oui,
ouais, enfin, Russie-Arabie Saoudite, un match en un jour, ça compte pas.
Ah oui, mais un match plus une cérémonie d'ouverture, excuse.
Ah oui.
Ah, voilà, donc.
Et heureusement qu'il y a Grégou pour la commenter.
Ouais, on a pu savoir plein de détails intimes sur les nuits qui passent avec Bichente. Enfin, bref, donc. Bon, ben voilà, on va se retrouver donc.
Et le groupe H, monsieur?
Ben, le groupe H, j'ai dit que c'était impronosticable. Sérieusement, c'est...
Et tu veux pas te mouiller, du coup?
Bah, si je devais me mouiller, je ferais Japon-Sénégal, moi. Pour moi, il est très bien, le classement du groupe, au terme de la première journée, là.
Et moi, en fait, j'aurais dit aussi ça s'il n'y avait pas un Japon-Sénégal des dimanches. Japon-Sénégal aurait été à la dernière journée. Je pense que j'aurais dit, ouais, Japon-Sénégal.
Ouais, parce que là, tu aurais senti le petit 0-0, tu vois, des familles avec,
oui, c'est
deux
ça,
équipes qui restent chacune dans leur camp.
C'est ça. Mais là, tu vois, Pologne-Colombie, déjà, c'est le match de la mort qui tue.
Justement, enfin, le Sénégal ou le Japon aura l'avantage de jouer contre une équipe éliminée, quasiment.
Ouais.
Donc,
Non, je pense que le Japon ou le Sénégal va passer. Mais voilà.
Ouais, mais du coup, je préférais la Colombie, hein, à ce moment-là. S'il faut choisir un entre la Pologne et la Colombie, j'espère que ce sera la Colombie, hein.
Mais du coup, si je prends là les gros qui sont prétendants au titre, Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, Portugal, c'est-à-dire les gros qui n'ont pas gagné, à ton avis, qui sort? Moi, je dis les Argentins sortent.
Ce qui est bien, c'est que tu mets pas la France, hein, dedans.
Ah non, parce que la France a gagné son premier match.
Ah,
donc je pense qu'ils vont pas tomber des l'épaule.
J'avais pas entendu la condition perdre le premier match.
Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, Portugal, qui sont les gros prétendants au titre, hein. Oui, la France est dedans, mais la France a gagné, a réussi à sortir avec 3 points.
Alors, du coup, tu mets pas les Australiens dans les prétendants au titre?
Non.
Pas dans les gros prétendants au titre, d'accord.
Dans les petits, si tu veux. Mais du coup, ils peuvent tomber dès les poules parmi les petits prétendants au titre.
Bah, pour moi, le Portugal va se qualifier, quoi. Enfin, je veux dire.
Donc, ça fait que l'Espagne potentiellement se qualifie pas.
Ouais, si, parce que on est dans un groupe, l'Iran et le Maroc sont trop faibles en comparaison, quoi. Donc ils passeront à l'arrache, mais ils passeront. Non, ouais, l'Argentine ou l'Allemagne, c'est un des deux, mais voilà, la malédiction du vainqueur, je pense, voilà, et 98, eh ben, en 2002, on s'est jeté, comme tu le dis, en 2010, les Italiens, en 2014, les Espagnols, donc, il n'y a pas de raison que les Allemands, ils fassent pas comme le reste des autres. Mmh. Et qui tombent aussi.
Ouais, puis, par contre, tu vois bien le Brésil se reprendre,
Bah, tout dépend si Neymar est perturbé par sa coupe de cheveux, s'il est perturbé par son...
Alors, comme dit, moi, j'aime beaucoup ce que dit l'équipe. Le plus du Brésil, Neymar s'il lâche le ballon. Le moins du Brésil, Neymar s'il lâche pas le ballon.
Bah, c'est un peu comme l'équipe de France en remplaçant Neymar par Mbappé. Mais non, ouais, pour moi, ça sera l'Allemagne ou l'Argentine. Bon. Toi, tu mises sur l'Argentine. Bon, bah alors, du coup, je prends l'Allemagne. Hein, comme ça.
Moi, je mise sur l'Argentine qui se fait sortir. Enfin, l'avantage de l'Argentine, c'est qu'elle a Messi, si elle y rate pas ses pénaux. Et elle a de très bonnes individualités. Le problème, c'est qu'il y a un collectif qui est clairement déficient pour l'Argentine.
Non, mais je repense, c'est même pas raté. Je veux dire, c'est honteux, hein, la façon dont il tire le penalty. Mais ouais, ça, enfin non, c'est... Bah, après, c'est Messi, quoi. Je vois pas la FIFA se passer de Lionel. Tu vois, en huitième, quart... Puis merde, ça sera quand même compliqué de faire le meilleur joueur de la compétition s'il se fait sortir des poules. Et imagine en plus que Cristiano, il marque à tous les matchs et qu'il finisse genre à 14 buts. Ça va être compliqué, hein. Donc il faut au moins que Messi soit en demi-finale pour justifier qu'il soit le joueur de la
compétition. Le meilleur joueur, oui, voilà. C'est ça.
Et qu'il ait son 48e ballon d'or en fin d'année, quoi, voilà. Mais bon, on verra ça. En attendant, on se retrouve...
en début de semaine prochaine.
Pour analyser la seconde journée. Merci de nous avoir écoutés. Et puis,
merci, Das Nico. Vidania. Mais Das Vidania à toi.
Oui, et Das Vidania à Anya. C'est nul.
C'est un peu vide comme blague.